Très heureux de passer ce petit moment avec vous. J'espère qu'il ne sera pas trop dur à suivre, hein, qu'il vous apportera quelques lumières. Et s'il y a vous ou ceux qui prendront la suite, au moins deux personnes que je vois comme ça, ou le petit groupe de quatre qui était juste avant, n'hésitez pas à lever la main si vous entendez mal ou à poser des questions si je m'embrouille. Enfin voilà, ça m'aidera parce que déjà l'exercice est complexe, je n'y suis pas très habitué. Et comme je ne vous connais quasiment aucun, enfin voilà, donc n'hésitez pas à me faire signe. Juste pour introduire mon propos très rapidement, d'abord, c'est pour moi une grande joie de participer à votre chemin de découverte de la Bible. Je vous y encourage et je vous félicite de placer évidemment le livre de la Bible comme l'ouvrage littéraire le plus stratégique de toute l'histoire humaine. J'imagine que vous êtes tous de bons lecteurs. J'imagine que vous avez tous une certaine sensibilité littéraire, même si vous êtes des grands mathématiciens. Et à la lumière de ce que vous avez pu lire et partager, vous avez tous, d'une manière ou d'une autre, fait l'expérience de saint Augustin, qui, ayant quasiment lu tout ce qui avait été écrit de son temps, lorsqu'il a ouvert le livre des Écritures, a compris que c'était ce qui était écrit au fond de son âme. Et donc, il a arrêté de lire tout le reste et il n'a passé plus que sa vie à lire la Bible et à la commenter à travers tous ses écrits. Et donc je souligne ici l'importance non seulement de l'Évangile, mais de l'ensemble des Écritures comme étant le firmament du ciel inscrit dans nos âmes. Et ça vous permet, pendant ces moments où on va moins au cinéma, où évidemment on rejette Netflix avec détermination pour qu'aucune de ces images et de ces choses n'entre dans nos âmes, de prendre vos longues soirées dans vos monastères ou dans vos maisons pour non seulement lire la Bible, mais éventuellement commencer des commentaires de la Bible, parce qu'on n'est pas obligé d'être un expert pour écrire un commentaire de la Bible. Nos naïvetés sont parfois plus savantes que les thèses d'exégèse les plus érudites. D'avoir l'occasion aussi d'échanger entre vous vos commentaires, c'est-à-dire à la fois de les écrire, mais aussi de partager entre vous, et aussi, d'une manière ou d'une autre, de l'annoncer. Donc, c'est un travail qui s'enracine dans la vie de l'âme et qui a comme perspective de créer la paix universelle. Ce livre a qu'un seul objectif, c'est de donner les moyens d'une paix universelle. Tous les éléments de la Bible ont été, j'allais dire, coagulés ou mis ensemble et reconnus comme ensemble parce que l'intention fondamentale de ce livre, c'est l'unité du genre humain, image de Dieu. Donc on a une sorte de projet d'humanité qui est, à travers ce livre, non pas de fabriquer des chrétiens pour qu'il y en ait un peu plus sur la terre, comme le dit le pape François souvent, ça n'est absolument pas le nombre des chrétiens qui détermine l'avenir du monde, c'est la qualité de leur âme imprégnée de cette parole de Dieu qui, au milieu du monde, comme une lumière qui peut être très fragile, suffit et parfois mieux à éclairer la planète tout entière que les plus grands spots qui parfois écrasent les couleurs et empêchent les contrastes. Donc, ayez à cœur, j'allais dire, de retrouver cette parole de l'écriture dans votre âme, elle est déjà écrite. Ayez à cœur de la verbaliser personnellement, de la commenter personnellement, parce que c'est votre vie qui en est son meilleur commentaire. Et puis, en commentant l'écriture, sachez que la commenter, c'est proposer une architecture du monde qui a été inscrite dans ce livre. Vous savez que Moïse, lorsqu'il a construit le temple de Jérusalem, avait, c'est la tradition du livre hein, qui le dit au livre de l'Exode, contemplé l'architecture céleste et que c'est à la lumière de ce qu'il voyait dans le ciel qu'il a pu construire sur la terre. Ça n'est pas impossible que nos cathédrales aient aussi été construites par des grands contemplatifs qui, parce qu'ils lisaient la Bible, avaient les justes proportions pour créer des voûtes, créer des chœurs, créer des tours, des flèches, etc. Et donc on a aussi aujourd'hui, à travers le monde dont on a la responsabilité, le devoir de s'imprégner de ce livre pour avoir les futures architectures du monde de demain, les futures structures sociales et économiques de demain, et au cœur de cette architecture littéraire qu'est la Bible, de reconnaître bien sûr l'évangile de Matthieu comme l'architecture de l'architecture. Vous avez, comme dans tout livre, hein, une sorte de partie clé hein, dans laquelle tout est composé de la manière la plus absolue. Et les premiers chrétiens, les pères de l'Église, ont considéré l'évangile de Matthieu comme le résumé de toute l'Écriture. on le dit parfois des psaumes que l'on prie dans les monastères, mais pour ce qui est de la construction du corps ecclésial et de la société humaine, l'évangile de Matthieu a été retenu par les pères comme la pièce maîtresse. Marc était très peu travaillé, Luc était parfois lu, Saint Jean était la matrice du catéchuménat, mais Matthieu était la règle de la dogmatique, de la morale et bien sûr de la théologie des fins dernières. Donc l'évangile de Matthieu a très vite eu dans l'esprit des pères de l'Église une sorte de place prééminente. C'était le premier évangile. Vous savez peut-être qu'on a cru pendant presque 2000 ans qu'il avait été écrit en premier et qu'ayant été écrit en premier, il avait une sorte de primauté apostolique devant Marc, devant Luc et devant Jean. L'histoire critique littéraire nous a permis de savoir qu'en fait, il avait été écrit après Marc. Donc, on le sait que depuis 70-80 ans. Et donc, on a considéré longtemps que Marc était le saint abréviateur. Et on reconnaît aujourd'hui que c'est plutôt Matthieu qui a été la sainte transmission et développement de l'évangile de Marc. Donc, vous avez dans l'évangile de Matthieu la réécriture de Marc, qui devient la pièce maîtresse de la théologie des pères de l'Église et de l'histoire de l'Église dans ses premiers siècles. Il a un petit peu perdu de sa pertinence depuis la crise protestante et les nouvelles approches narratives, parce que Marc et Luc ont été très travaillés par les protestants et très travaillés par les nouvelles veines littéraires qui se sont développées aux États-Unis en narratologie. Mais je pense vraiment que revenir à l'évangile de Matthieu, c'est se situer au cœur de cette unité scripturaire qui fonde la foi de l'Église. Voilà, je vous propose un plan en deux parties. Une première partie qui se consacre d'abord à l'objet littéraire pour lui-même, donc un objet littéraire très élaboré, fruit d'une rédaction assez longue. Et puis, dans un deuxième temps, je vous proposerai une réflexion sur l'ecclésiologie de l'évangile de Matthieu, on pourrait dire sa thèse théologique. Voilà, une partie plus analytique du fait littéraire qu'est l'évangile et une partie plus théologique de la pensée de l'évangéliste. Alors, pour aborder cet objet littéraire, je vous propose trois points d'attention ou trois points d'exploration. Un premier point d'exploration qui est tout simplement la place des mots ou encore l'architecture du livre. Et puis, une autre approche de cet objet littéraire, c'est son phénomène de réécriture. Donc, ça n'est pas une écriture, j'allais dire, d'un premier jet, mais c'est vraiment une deutérose au sens du deutéronome. On réécrit l'écriture. Donc, c'est vraiment un objet littéraire qui a comme fond sa réécriture. Et enfin, ce n'est pas le moindre des points qu'il faut aborder quand on aborde cet évangile, sa place ou l'intention liturgique de sa composition. Ce n'est pas un texte qui a été écrit comme on écrirait un roman au XIXe siècle, c'est un texte qui a été écrit pour une communauté croyante qui célèbre la liturgie. Voilà, donc trois approches pour essayer de vous présenter, j'allais dire, la texture, l'épaisseur littéraire de ce bel évangile. Donc, mon premier point, c'est tout simplement de valoriser le plus possible, dans l'approche de l'écriture en général, et de Matthieu en particulier, l'importance des mots. Très difficile, donc, de lire l'évangile de Matthieu en français dans une traduction, à moins qu'elle ne soit très littérale. Il vaut mieux, pour lire l'évangile de Matthieu, avoir une mauvaise littérale qu'une belle littéraire. Et donc, quand vous lisez l'évangile de Matthieu, n'hésitez pas toujours à aller voir quel est le mot qu'il y a derrière. Parce que lorsque vous avez le mot « foule », par exemple, parfois ça peut être traduit par « les gens ». Et vous perdez un des indices les plus importants de l'évangile de Matthieu, qui est la logique de répétition des mots, de leur place dans le texte et de leur fonction structurante pour la composition de cet évangile. La manière d'écrire sémitique et antique, on pourrait dire plus largement, c'est qu'on ne met pas de titre, on ne met pas grand 1, grand 2, grand 3, et donc tout est inscrit dans le texte lui-même. Vous prenez un exemple, pour marquer le début de son évangile, l'évangéliste place le mot « livre de la Genèse ». Ce sont les deux premiers mots du livre. Et pour vous marquer qu'il a fini son évangile, eh bien, il vous donne les deux derniers mots de ce texte, c'est la fin du monde. Donc vous avez une intention très précise chez l'évangéliste, que chaque mot doit être extrêmement bien placé, et qu'à chaque fois qu'on utilise un mot, dès qu'on le répète, il faut que sa répétition soit significative pour l'ensemble. Donc on n'a pas du tout peur de répéter des mots, de répéter des phrases. Ça n'est pas une littérature française qui souvent nous dit que la répétition peut être lourde. Au contraire, dans l'évangile de Matthieu, la répétition est le principe de composition. Donc, des mots très précis, une place très précise et un repérage nécessaire pour comprendre comment l'évangéliste a construit son ouvrage. Donc, j'ai parlé des premiers mots et des derniers mots, mais si vous regardez de plus près les 28 chapitres de l'évangile de Matthieu, vous y découvrirez un magnifique septenaire, comme un chandelier à 7 branches. Et je vais vous indiquer assez rapidement les grandes lignes de ce septenaire matthéen. Repérez d'abord la partie introductive, que je vais intituler « grand A », et la partie conclusive que je vais intituler A'. Le grand A de l'évangile de Matthieu, c'est la présentation de la personne de Jésus, des chapitres 1 à 4. Vous n'avez pas les évangiles de l'enfance et le début de la... Enfin voilà, c'est les titres habituels qu'on donne, le baptême de Jésus. Vous avez 4 chapitres qui vous présentent l'identité humaine et divine de Jésus, qui a 3 caractéristiques fondamentales. Il est roi, il est prophète et il vient pour le pardon des péchés, sous-entendu, il est prêtre. Et donc, on vous présente Jésus dans les 4 premiers chapitres pour vous donner tous les éléments christologiques pour que, d'une certaine façon, le Christ n'ait plus de secret pour vous. Et en écho à cette présentation personnelle de Jésus dans les chapitres 1 à 4, vous avez les derniers chapitres de l'Évangile qui lui font écho, les chapitres 26 à 28, qui est le récit de la Passion, très proche du récit de la Passion de Marc, avec quelques nuances, et qui vous présente l'acte principal de cet homme. Quel est l'acte principal de cet homme? L'art de bien mourir. La Passion du Christ résume en quelque sorte, en 24 heures de la vie d'un homme, toute sa personnalité. Donc l'évangile est construit avec une première partie qui vous présente qui est Jésus, le Fils de Dieu, et une dernière partie qui vous présente l'acte principal de sa vie, qui dit, on pourrait dire, toute la profondeur de sa personne, le sang qu'il a versé pour son peuple. Le mystère de la croix, c'est l'acte ultime considéré par Matthieu comme ce qui caractérise le mieux Jésus lui-même. Et vous retrouvez le titre d'un livre de Jean-Paul II, « Personne et acte », qui vous permet d'entrer dans l'évangile de Matthieu en lisant le début et la fin, et d'avoir la présentation vraiment christologique de l'incarnation du Verbe de Dieu, et d'avoir, en écho à cette partie de l'incarnation, la présentation de la rédemption par le sang versé de Jésus. Donc c'est vraiment l'incarnation et la rédemption, les 2 grands moments de la vie du Christ, c'est sa kénose lorsqu'il s'est fait homme et qu'il a été baptisé au Jourdain, et puis sa kénose au niveau de sa volonté humaine lorsqu'il s'est laissé emprisonner, lorsqu'il s'est laissé crucifier et lorsqu'il a ainsi manifesté qui il était en plénitude. À la fin, vous avez évidemment la parole du centurion, celui-ci est vraiment fils de Dieu. Donc, des premiers chapitres qui vous pose la question à travers les mages, où est le roi des Juifs? Et la dernière partie qui vous dit où est le roi des Juifs sur la croix avec l'écriteau de Pilate. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez travailler sur tous les mots qui se répètent. Vous découvrirez par exemple qu'il y a 2 personnes qui s'appellent Marie et Joseph pour l'incarnation du Verbe de Dieu, c'est son père et sa mère. Mais assez bizarrement, vous avez des Marie et un Joseph à la fin pour la mise au tombeau et la résurrection de Jésus. Donc, est-ce que l'évangéliste a fait exprès de citer Marie et Joseph au début pour les réentendre parmi les disciples? C'est pas impossible que ces échos soient vraiment intentionnels. Donc, c'est ce qu'on appelle la grande inclusion de l'évangile, sorte de cathédrale, un peu comme Notre-Dame de Paris, où vous avez deux tours. Vous avez l'incarnation et le mystère pascal, qui sont les deux grandes tours, les chapitres 1 à 4 et les chapitres 26 à 28, qui forment les deux branches extérieures du chandelier. Vous avez en écho à ces deux grandes parties, on pourrait dire événements, l'incarnation et la rédemption, deux grands discours qui se complètent. Donc là aussi, l'évangéliste fonctionne par mode d'inclusion. Vous avez des chapitres 5 à 7, le discours sur la montagne, très célèbre parce qu'il donne les fondements de la morale chrétienne. Et c'est au cœur de ces chapitres que vous avez la prière du Notre Père. C'est au début de ce discours sur la montagne que vous avez les béatitudes. Et c'est à la conclusion de ce discours que vous avez la petite parabole de la maison bâtie sur le roc. Donc si nous faisons les paroles de ce discours, nous serons bâtis sur le roc. Mais si nous les écoutons sans les pratiquer, c'est comme une maison sur le sable qui tombe en ruine. Donc ce discours inaugural du royaume est la première partie d'un grand discours dont la deuxième partie est la toute fin de l'évangile dans les chapitres 23 à 25. Et pour que vous reteniez le lien entre ce premier grand discours et ce dernier grand discours sur le mont du temple et sur le mont des Oliviers, vous avez d'un côté « Heureux les pauvres de cœur » avec toutes les béatitudes, et de l'autre côté, vous avez la série des malédictions « Malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous mangez la laine sur le dos des veuves, malheur à vous, etc. » Et donc vous retrouverez entre le chapitre 5 et 7 et les chapitres 23 et 25 un jeu de complémentarité d'une bénédiction et d'une malédiction qui consiste à découvrir dans la première grande prise de parole de Jésus l'appel à vivre du Père et la dernière grande parole du Christ avant de mourir à Jérusalem, la condamnation des institutions de Jérusalem, ce qu'on pourrait appeler un unique grand discours qu'on va dire B et B prime. Donc ce sont les deux branches, j'allais dire, plus intérieures du chandelier qui se répondent l'une l'autre. Et l'évangéliste fait en sorte que vous lisiez le dernier discours en ayant vraiment la mémoire du premier. Voilà, donc un discours inaugural. Jésus arrive comme roi et il va commencer son ministère. Et Jésus finit son ministère, il va être crucifié et il donne sa parole finale. Et l'évangéliste, à travers ces deux discours, vous donne une grande catéchèse complémentaire du Christ. Si je poursuis ma lecture concentrique, vous découvrirez les branches C et C' du chandelier que l'on considère les deux étapes des disciples du Christ. Le Christ n'a pas voulu rester seul, il s'est associé des disciples, il a appelé Pierre, Jacques et Jean, etc. Et donc vous avez un cheminement des disciples du Christ avec un premier cheminement centré sur le pardon, les chapitres 8 à 12, et le sabbat, le repos, le pardon et le sabbat se répondant dans les chapitres 8 à 12, et puis les chapitres 14 à 22, centrés sur l'Eucharistie et le temple, donc la nourriture d'immortalité et le sacrifice parfait. Donc là aussi, l'évangéliste fait en sorte que la première étape des disciples soit l'étape de la miséricorde. Vous allez voir le Christ et vous êtes avec lui pour être guéri de vos fautes, un peu comme on va à l'hôpital pour être soigné de nos maladies. Et puis, une fois qu'on a été soigné, eh bien, il faut aller au restaurant et manger un bon repas. Et donc, l'Eucharistie, la fraction des pains et tout ce qui suit les chapitres 14 à 22 vous introduisent dans ce qu'on pourrait appeler la plénitude de la vie, être rassasié. Pas simplement être guéri, mais être comblé. Donc, vous avez aussi deux clés de discernement pour marcher à la suite du Christ qui vous sont données dans ces parties C et C'. Une première partie qui nous arrache au péché et une deuxième partie qui nous plonge dans le mystère de Dieu par la communion à la vie que le Christ nous transmet. Donc là aussi, ces deux étapes qui permettent à Jésus de s'associer des disciples qu'il appelle à devenir pêcheurs d'hommes est une manière de nous montrer comment la communauté des disciples va accueillir les deux grands enseignements du Christ et comment ces deux grands enseignements du Christ nous communiquent ce qu'est le Fils dans son mystère pascal. les disciples étant appelés à être configurés à la personne de Jésus pour pouvoir vivre pleinement l'offrande de sa vie. Et vous avez un chapitre pivot, le chapitre 13, qui est le discours en parabole et qui est à la fois le centre de l'évangile de Matthieu, mais également qu'on appelle le pivot interprétatif. Et vous retrouverez dans ce chapitre 13 la question « Avez-vous compris tout cela ?» Et les disciples répondent « Oui, nous avons compris. » Au cœur de ce chapitre 13, vous avez une parabole du semeur, une parabole de la zizanie. Ces deux paraboles traduisent le fait que les disciples reçoivent le mystère du Christ de l'intérieur de leur relation au Christ, alors que les foules ne reçoivent les choses qu'à travers les paraboles. Donc ça met en valeur la relation privilégiée que le lecteur est appelé à construire avec le Christ pour ne pas lire cet évangile du dehors, comme on pourrait dire un spectateur, mais du dedans, comme un disciple appelé à devenir missionnaire. Voilà à grands traits, mais je ne veux pas passer tout le temps avec vous sur ce plan, les grandes lignes d'un septenaire qui permettent de situer dans l'évangile et de comprendre comment l'alpha et l'oméga, c'est vraiment le Christ, la loi nouvelle et le grand discours B et B prime, le cheminement des disciples est en deux phases et il y a un pivot de la relation au Christ qui est au centre et qui nous permet de nous engager dans cette aventure évangélique. Donc, ça n'est pas un plan, j'allais dire, rhétorique grec, ça n'est pas un plan scientifique, c'est un plan sémitique où l'unité circulaire du texte implique de repérer le centre et les extrémités. Deuxième élément important dans cet objet littéraire, c'est son phénomène de réécriture. Donc, saint Matthieu propose l'aventure de Jésus. Donc l'évangile, c'est une sorte de biographie. Elle suppose d'en avoir compris une composition théologique bien charpentée, comme j'essaie de vous le montrer, mais elle entend aussi ne pas être une deuxième loi. Elle entend ne pas se substituer à la loi de Moïse et à l'histoire d'Israël. Et donc, toute l'écriture de la vie du Christ est présentée comme une interprétation de l'Ancien Testament. Et lorsqu'il commence son évangile en disant « Livre de la jeunesse de Jésus-Christ », qu'après il vous présente Hérode, qui vous présente Jésus au désert, etc., etc., il vous invite à voir dans la vie du Christ la vie de son peuple, comme si tout l'itinéraire de l'Ancien Testament, tout l'itinéraire d'Israël, était la génétique de Jésus, et comme si la vie de Jésus était tout simplement d'accomplir les Écritures. C'est ce que va dire un Saint-Luc de façon très explicite dans Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Il leur commentait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Matthieu, j'allais dire, est moins explicite, plus subtil. Il vous le montre sans vous le dire. Et donc, quand on lit les Écritures de Matthieu, on s'aperçoit que pour bien comprendre le texte de Matthieu, il faut avoir une connaissance parfaite de l'Ancien Testament. Si vous n'avez pas une connaissance précise et parfaite de l'Ancien Testament, vous perdez, j'allais dire, 80% du message. Rien que le premier chapitre de Matthieu est quasiment à 98% des allusions, des citations et des reprises de l'Ancien Testament. Et j'essaie de faire la démonstration pour l'ensemble de l'Évangile, mais c'est un gros travail de pouvoir repérer les allusions, les citations explicites, les citations annoncées, etc. En tout cas, sachez que plus vous connaîtrez l'Ancien Testament, plus vous repérez que Matthieu est un grand spécialiste de la réécriture, voire un génie absolu, et qu'il a des petites subtilités de jonction de citations entre le livre de Joël, le livre de Malachie, le livre d'Isaïe, le livre des psaumes, qui est un véritable prodige. Par exemple, pour bien caler sa partie introductive sur qui est Jésus, il vous cite Isaïe 7 au chapitre 1, il vous cite Isaïe 8 au chapitre 4, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière », en écho à « L'Emmanuel, vous l'appellerez Emmanuel, Dieu avec nous », et vous percevez que toute sa présentation de Jésus des chapitres 1 et 4 est une réécriture du cycle d'Isaïe, qui est le livre de l'Emmanuel. Voilà, donc c'est des petits exemples que je vous donne, mais évidemment, C'est un, j'allais dire, un jeu de lecture très beau que de faire jouer les résonances avec l'Ancien Testament et de repérer comment Matthieu réécrit l'Écriture à travers le prisme de la vie de Jésus. Pour éviter que l'on prenne le Nouveau Testament comme une nouvelle Écriture qui se substituerait à l'ancienne. C'est l'un des grands enjeux de l'évangile de Matthieu, c'est d'écarter toute théologie de la substitution et de permettre aux Juifs à qui il écrit de se repérer en Jésus pour se sentir chez eux. Donc il écrit vraiment de l'intérieur du peuple juif, principalement à des Juifs très cultivés, des scribes, pour leur permettre, en lisant son évangile, de se dire, mais finalement, en lisant l'évangile, on est chez soi. Il y a quelque temps, je faisais une petite conférence avec un rabbin sur le discours sur la montagne. Et en partageant nos commentaires de ces chapitres 5 à 7 de Matthieu, eh bien nous étions, j'allais dire, dans la même maison. Et c'est le juif lui-même, le rabbin lui-même, qui disait, mais moi, quand je lis ce texte, je suis chez moi. Donc c'est l'intention de Matthieu de mettre Jésus dans la loi pour que tout juif se retrouve chez lui en Jésus. Voilà. Enfin, troisième point par rapport à cet objet littéraire, c'est un texte qui a été écrit pour trouver sa place dans un peuple qui célèbre la liturgie eucharistique en particulier. Il est donc crypté pour tous les non-pratiquants. Et donc toute personne qui lit l'évangile de Matthieu sans avoir la foi catholique ou chrétienne, j'allais dire plus largement, sans dire le Notre Père à la messe, sans vivre le sacrement du baptême ou du pardon, est privé de 50% de ce qu'il est nécessaire d'avoir pour comprendre le texte. J'avais fait le test avec un de mes petits-neveux, là, enfin un de mes neveux qui était petit, parce que je ne suis pas encore grand-oncle, mais en lui prenant la phrase de la fraction des pains. Donc Jésus prit les pains, il les bénit, il les rompit et les donna à ses disciples. Et là, je faisais une petite pause. Et j'étais très fier de mon neveu qui me disait, à ce moment-là, Jésus dit, ceci est mon corps livré pour vous. Sauf que dans l'évangile de Matthieu, cette petite phrase est retenue pour l'institution de l'Eucharistie au chapitre 26, mais c'est intentionnel chez Matthieu, quand il raconte la fraction des pains, de prendre la phrase de la liturgie eucharistique pour que notre mémoire ajoute à son récit ce que nous célébrons dans l'Eucharistie. Et lorsqu'il dit tes péchés sont pardonnés au chapitre 9, il sous-entend une communauté qui vit cette expérience de la parole qui pardonne les péchés. Et donc vous avez de mille manières, j'allais dire, dans l'évangile de Matthieu, des passages qui ne sont pas tronqués intentionnellement pour nous perdre, mais qui sont creuser intentionnellement pour qu'on ne puisse pas bien comprendre ce texte sans la foi de l'Église. Pour le dire autrement, c'est à partir de la proclamation de la foi et à partir de la célébration liturgique que le texte a été écrit et c'est un aide-mémoire pour des personnes qui connaissent la liturgie et qui connaissent la pratique chrétienne, enracinée bien sûr dans la pratique juive de la Pâque et des différentes fêtes juives. Donc on est assez peu familier d'objets littéraires qui sont écrits pour une liturgie. En général, quand on lit un texte littéraire, une pièce de théâtre ou un roman, eh bien, il est autoréférencé. Alors bien sûr qu'il faut connaître le milieu, bien sûr que c'est bien de connaître l'auteur, bien sûr que c'est bien de connaître ses sources, mais l'écriture d'un texte est en général dissociée de la pratique liturgique ou d'une pratique sociale. En revanche, et c'est peut-être l'une des caractéristiques les plus exceptionnelles du récit évangélique, et en particulier de Matthieu, c'est d'avoir été écrit pour un peuple qui pratique la louange de Dieu, l'Eucharistie, et qui, lorsqu'il écoute l'Évangile, est capable de combler, hein, entre les phrases, entre les mots, toute la vie de sa foi et toute l'expérience des fruits de sa pratique liturgique. Donc les allusions à la liturgie sont nombreuses, les titres comme le titre de Seigneur est extrêmement important, l'acclamation Hosanna qui apparaît à un moment au chapitre 21 est évidemment importante à cette étape de l'évangile, et fait écho à tout ce patrimoine liturgique et communautaire de la vie de l'Église. Donc vous avez non pas un texte crypté intentionnellement pour des érudits, puisque quelqu'un qui est très simple, qui est très pauvre, un petit enfant qui prépare sa première communion, est capable, s'il pratique la liturgie de façon régulière, de repérer les liens que l'auteur a voulu, entre, par exemple, la fraction des pains, la multiplication des pains, et l'institution de l'Eucharistie, comme entre le pardon des péchés attribué dans une synagogue et le mystère de la croix. Donc vous avez tout un ensemble comme ça de références qui, dès lors qu'elles sont vécues dans la liturgie, deviennent évidentes pour celui qui lit ou qui étudie. Donc, pour résumer un peu cette première partie que je voulais vous présenter, repérez déjà que l'évangile de Matthieu est un texte littéraire très élaboré, fruit d'une rédaction longue qui a pris à peu près une trentaine d'années. Donc c'est long hein, pour un texte aussi court de 28 chapitres. C'est une vingtaine de pages et c'est le travail d'une communauté, d'un apôtre, de scribes qui ont travaillé sur ce texte pendant à peu près 30 ans. Donc c'est vraiment c'est un diamant extrêmement travaillé. Il connaît le texte de Marc qu'il réécrit pour étoffer la foi de l'Église. J'y reviendrai dans ma deuxième partie. Il propose ce que j'appelle un chandelier à sept branches pour que nous repérions que le cheminement n'ajoute rien au commencement et à la fin. On part du Christ et on arrive au Christ. Et ce cheminement donné par les disciples leur permet d'intégrer la parole et les actes du Christ. Et cela suppose évidemment un engagement du lecteur à la suite des disciples dans cet évangile. Deuxième aspect très important de cet objet littéraire, c'est son enracinement dans l'Ancien Testament, qui n'est pas uniquement occasionnel, fortuit ou parfois opportuniste. Il ne s'agit pas de citer l'Écriture pour dire « comme ça avait été écrit, c'est donc vrai ». Ce n'est pas du tout l'apologétique de Matthieu. Il n'utilise pas l'Ancien Testament pour nous faire croire au Christ. Il nous dévoile le mystère du Christ dans la confiance qu'il a dans l'Ancien Testament. Donc c'est vraiment un usage très global, très général et pas du tout argumentatif. Ce n'est pas utilitaire au sens où il aurait utilisé l'Ancien pour nous convaincre du Christ. Il veut plutôt nous faire entrer dans l'Ancien avec le Christ. Et enfin, c'est vraiment le texte d'une communauté croyante et d'une communauté qui a déjà vécu un catéchuménat et qui est introduite par la parole des disciples, par la parole des apôtres, à la fois au Christ. Et donc, on ne transmet pas la foi d'abord par le texte, on transmet la foi par la catéchèse, c'est-à-dire par la prédication, par le kérigme, par la formation théologique, et c'est à la lumière de cette formation que l'on pratique sa vie chrétienne, et c'est dans la lumière de cette pratique chrétienne que l'on a les clés d'intelligence pour lire l'Évangile, pour lire le texte de Matthieu. Ça va sur cette première partie? Vous me coupez, je fais une petite pause là parce que j'espère que je ne vous épuise pas, que mon débit n'est pas trop rapide ou mes explications trop confuses. Donc n'hésitez pas à sonner le signal d'alarme. Enfin, si tout le monde se déconnecte, j'aurais compris que je vous ai un peu perdu en chemin, quoi. Mais voilà. Ça va?
Oui.
On continue?
Merci Père, c'est top.
Bon, eh bien, allons-y. Alors, deuxième grande partie. J'avais une jeune fille que je voyais, je ne la vois plus, qui était dans la nuit. Ça m'arrange de la voir parce que ça me permet de me concentrer. Et là, j'ai un O. Donc, je ne sais pas si elle peut revenir, mais si elle ne revient pas, je continue quand même. Donc, ma deuxième grande partie, c'est de considérer l'Évangile à travers son unité théologique, sa finalité principalement ecclésiologique. L'évangile de Marc est vraiment centré sur la nouveauté du Christ, sur qui est Jésus et comment être disciple de Jésus. L'évangile de Matthieu, donc, qui est écrit après, a comme finalité de nous faire réfléchir principalement au mystère de la communauté ecclésiale. On est au cœur d'un débat entre les pharisiens et les disciples du Christ. Matthieu lui-même est un scribe, un publicain, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît très bien les Écritures et qui les commente. Et il repère dans les années 60-70, hein, juste avant et autour de la ruine du Temple de Jérusalem, que se cristallise une tension entre les Juifs qui croient au Christ et les Juifs qui refusent de croire en lui. Et la grande préoccupation de Matthieu, cette préoccupation vraiment essentielle qu'il faut entendre, c'est que Matthieu ne souhaite pas que l'Église sorte du peuple d'Israël. Il veut absolument que l'on comprenne que c'est à l'intérieur du peuple d'Israël que le Christ a fondé son Église. Et on voit bien comment, par les luttes intestines entre pharisiens, sadducéens, esséniens, les grands prêtres, les publicains, les galiléens, les zélotes, ça n'était pas si évident de fonder une communauté nouvelle à l'intérieur même de la communauté d'Israël. Et Matthieu, qui est un apôtre du Christ, et sans doute les disciples avec qui il écrivait l'Évangile, avait cette forte préoccupation, comment fortifier le lien des nouveaux baptisés avec l'unique peuple de Dieu, Israël. Comment l'identité ecclésiale était appelée à se construire non pas contre les Juifs, mais à l'intérieur de l'identité juive. Et comment l'identité juive du peuple de Dieu n'avait pas été refusée par Jésus, ou rejeté par Jésus, mais au contraire, avait été le point principal de ses catéchèses. C'est dans cet évangile que vous avez cette parole très forte, hein, mais qui résonne de mille manières dans l'évangile. « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Et c'est dans cet évangile aussi que vous retrouvez des paroles très fortes sur le sabbat et sur le temple, des institutions temporelles et spatiales, que jamais l'évangéliste Matthieu n'a souhaité mépriser ou n'a souhaité la théologie de l'Église. Vous avez donc un contexte rédactionnel de l'évangile Matthieu qui vous place au cœur d'une tension qui est de l'ordre institutionnel entre les pharisiens d'un côté, les institutions du temple avec les pharisiens, et de l'autre, les apôtres. Et dans cette tension institutionnelle, le souhait de l'apôtre saint Matthieu d'éviter toute confrontation qui conduirait à un schisme, qui conduirait à une séparation inéluctable. Et donc, en écrivant son évangile, Matthieu tisse de la manière la plus forte possible l'attachement de la communauté chrétienne aux institutions d'Israël, le sabbat et le temple, mais aussi et surtout de lier la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à la Torah de Moïse. Et à travers cette option que l'évangile de Matthieu présente de façon forte, vous avez la réponse anticipée à la grande hérésie qui va arriver très vite du martionnisme. Se construire contre les Juifs, se construire contre l'Ancien Testament, comme s'il y avait d'un côté l'amour du Christ et de l'autre la vulgarité des Juifs. Et ce contexte rédactionnel nous permet donc, lorsque nous voyons cette tension apparaître au milieu des pharisiens ou au milieu de l'institution du Temple, de ne jamais lire cet évangile comme si nous étions des chrétiens, mais de toujours lire cet évangile comme si nous étions juifs avec saint Matthieu, pour entrer dans la manière très fine qu'a saint Matthieu de renforcer l'identité apostolique en écartant la corruption des identités institutionnelles en place, mais en préservant l'identité de l'unique peuple de Dieu. Et donc d'éviter l'écueil qui est souvent le nôtre, de confondre une crise institutionnelle, ce qu'on pourrait appeler un changement de régime, avec un changement de communauté ou un changement de peuple. Matthieu considère de fait que Hérode est pourri, c'est un assassin, il fait tuer les enfants et il n'a aucune raison d'être roi de Jérusalem. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute que Hérode est un imposteur. Caïphe et les différents acteurs de la vie du temple sont aussi des imposteurs et Matthieu n'a aucune difficulté à dénoncer les impostures. Et elles sont évidentes, tout le monde les connaissait. Et donc, ça n'est pas très compliqué de chasser les vendeurs du temple et de qualifier le grand prêtre et Pilate ou Caïphe, et Hérode d'imposteurs. En revanche, ce qu'il ne souhaite pas, c'est que l'on tire de cette imposture un mépris pour le peuple de Dieu, fait de pauvres et de prophètes, une communauté dans laquelle se trouvent Joseph et Marie, une communauté dans laquelle se trouvent Pierre, Jacques, Jean, André et les autres disciples, et une communauté juive qui croit au Christ, qui pérennise le mystère d'Israël dans l'histoire des hommes. On est donc dans, j'allais dire, le texte le plus solide et le plus fort, plus que les épîtres de saint Paul, pour nous permettre de comprendre l'ecclésiologie, non pas en termes d'opposition aux Juifs qui auraient refusé le Christ, mais en termes de continuité de l'unique dessein de Dieu qui accomplit son unique alliance avec les hommes, avec son peuple Israël, pour lequel le Christ a donné sa vie. Il y a donc chez Matthieu la volonté très ferme d'affirmer la fidélité du dessein de Dieu. C'est un même Dieu qui reste uni à son unique peuple et qui va envoyer ses disciples dans le monde pour manifester cette fidélité. Les conséquences ecclésiologiques sont très fortes. Elles sont, je pense, importantes pour les approches nouvelles du mystère d'Israël que nous vivons en ce moment. Elles sont, en tout cas pour moi, qui me suis engagé dans ces études et dans ce travail, une source d'inspiration, j'allais dire, extrêmement importante et nourrissante pour moi. Donc, premier point que je voulais souligner de cette théologie de saint Matthieu, une théologie de la fidélité de Dieu à son peuple Israël, marquée par une crise non pas de l'identité du peuple, mais de l'imposture institutionnelle qui conduit l'apôtre à maintenir comme indissoluble le choix de Dieu dans l'histoire et l'appel des apôtres comme étant consacré au service de cette fidélité de Dieu et non pas appelé à construire leur identité contre ceux qui auraient refusé de reconnaître le Christ. Deuxième clé, je pense, pour approfondir cette thèse de l'évangile de Matthieu, c'est la valeur de deux personnages qui sont mis en regard autour de Jésus, le personnage de Jean-Baptiste d'un côté et le personnage de Pierre. Qu'est-ce que l'évangéliste veut faire à travers ces deux personnages? Il veut consolider l'idée de tradition avec d'une part le prophète Jean-Baptiste qui ouvre à la nouveauté du Christ, et on verra dans cette relation de Jean-Baptiste à Jésus l'axe d'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le Christ, et puis l'appel et l'institution de Pierre comme premier apôtre sur laquelle l'Église est fondée, institution légitime et infaillible que Jésus manifeste dans la personne de Pierre, qui est le passage du mystère du Christ à sa transmission apostolique. Quand on compare l'évangile de Marc et l'évangile de Matthieu, on s'aperçoit de façon assez évidente que Matthieu a voulu renforcer cet axe de la tradition. Jésus ne tombe pas du ciel, il est préparé par la prédication de Jean, il commence sa nouvelle prédication par l'arrestation de Jean et il monte à Jérusalem du fait de la décapitation de Jean. On considère vraiment que Jésus, un peu comme Élisée qui marche à la suite d'Élie, est vraiment celui qui poursuit la mission prophétique de Jean-Baptiste. Et tout en manifestant cette continuité prophétique en Jésus, vous avez ce deuxième axe qui lui est indissociable, qui est la transmission de ce que Jésus est au personnage de Pierre, qui devient le garant de la fidélité au Christ. Et donc là aussi, saint Matthieu insiste beaucoup, surtout à partir des chapitres 14 et suivants, sur le rôle de Pierre. C'est lui qui va marcher sur la mer, c'est lui qui va confesser Jésus avant la transfiguration, c'est lui qui va interroger Jésus au chapitre 18 sur la miséricorde, et vous pourriez retrouver le renforcement de ce rôle dans l'évangile de Matthieu, pour montrer que Jésus n'est pas isolé, il n'est pas resté seul, et on n'arrive pas à Jésus tout seul, on passe par la médiation de Pierre, qui est le fondement de la tradition apostolique. Voilà, donc deux personnages un qui précède Jésus et un qui porte sa succession, et qui montre comment, de Jean à Jésus et de Jésus à Pierre, vous avez derrière ces deux transmissions les principales conditions pour qu'une tradition soit juste, bien accueillir le passé et bien ouvrir l'avenir. Voilà, donc l'évangéliste Matthieu a eu beaucoup de soin à nouer les temps passés aux temps futurs. Et lorsqu'on travaille ces deux traditions, la tradition de Jean et la tradition de Pierre, on reconnaît en Jésus vraiment ce que certains appelaient le gond de l'histoire, là où se chevauchent le plus grand des enfants des hommes et le plus petit des enfants du royaume. Voilà, donc c'est une sorte de condition pour recevoir l'évangile, non pas comme un aérolithe qui tombe du ciel, mais comme le point de jonction entre l'appel d'Israël et l'ouverture aux nations. Et enfin, et ce sera mon dernier petit point de cette veine théologique de l'évangile de Matthieu, vous avez dans saint Matthieu un grand défi interprétatif. Ce grand défi interprétatif, il est d'expliquer la raison pour laquelle les apôtres sont partis annoncer à toutes les nations la loi nouvelle et quel est le sens de leur mandat missionnaire au chapitre 28. Donc c'est la toute finale de l'évangile, chapitre 28, versets 16 à 20. Donc, allez donc, instruisez des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ce mandat missionnaire est interprété par certains protestants, en particulier Margerat, qui est la sommité sur l'évangile de Matthieu, comme étant fondé, et c'est là où je précise vraiment ma pensée, sur le fait que parce que les Juifs auraient refusé le Christ, les apôtres seraient partis l'annoncer aux nations. Je ne vais pas entrer dans les débats parce que c'est des débats qui sont assez profonds et qui supposent de travailler de façon très approfondie les textes, mais il y a un vrai débat théologique et scripturaire sur sur ce sens que propose cette exégète de la raison pour laquelle on va ouvrir le mystère du Christ à toutes les nations. Donc je me mets, je dirais, en regard de Margerat pour proposer une alternative catholique à à sa proposition, que je considère être une ébauche de la théologie de la substitution, à savoir que la raison pour laquelle les apôtres sont envoyés en mission, ça n'est pas parce que des Juifs ont refusé le Christ, mais c'est parce que le Christ a aimé son peuple jusqu'au bout. Il y a donc un lien très étroit entre ce que le Christ fait à Jérusalem pour son peuple, la fidélité à sa mission, d'avoir été envoyé chez les siens pour les aimer jusqu'au bout, quand bien même les siens le rejetteraient, et qu'en regardant cet amour fidèle jusqu'au bout, y compris vis-à-vis de ceux qui l'ont crucifié, et les Juifs ont crucifié Jésus par la main des Romains, mais ont été, j'allais dire, acteur de de sa mort, il a pu manifester sa mission en faveur d'Israël. Et les apôtres, qui sont des Juifs qui croient au Christ, ne partent pas vers les nations parce que les Juifs auraient crucifié Jésus, mais parce qu'ils ont constaté dans le cœur de Jésus que sa capacité d'aimer son peuple était au-delà de tout ce qu'un être humain pouvait faire. Et que dans sa miséricorde accordée à son peuple, qu'ils ont éprouvé dans la résurrection du Christ, ils ont reçu la charge d'aller annoncer à toutes les nations que le peuple de Dieu avait été aimé jusqu'au bout en Jésus, et que c'était la raison pour laquelle on pouvait l'annoncer aux autres nations. Et ce que nous annonçons aux Gaulois, aux Turcs, aux Chinois, ou aux Sud-Américains, ça n'est pas une sorte de sagesse que des Juifs n'auraient pas comprise à un moment, mais c'est un fait historique, un pardon accordé, et que ce pardon accordé dont les apôtres ont été témoins, nous en avons aussi été les témoins pour notre propre vie, et c'est le cœur de la mission apostolique de l'Église. Non pas annoncer le mépris des Juifs, mais annoncer une miséricorde faite au peuple d'Israël sans retour, jusqu'au bout et indissoluble, et qui nous permet d'apporter une espérance à ceux qui parfois pourraient douter de l'amour de Dieu dans leur vie. Voilà, je crois que j'ai dépassé mon temps. Je voulais vous donner par ces quelques réflexions une vision un peu, j'allais dire, à la fois cohérente et un peu quand même arrivée à un petit point quand même de controverse sur l'interprétation de l'Évangile, hein, que vous pourrez creuser et provoquer quand même un petit débat. Mais je vous laisse la parole. Je ne sais plus si, enfin, je ne sais plus les horaires. Voilà, donc.
Merci infiniment, mon père. On a un petit peu de temps pour quelques questions, c'est certain, non?
Vous la mettez par petit message ou par oral, je ne sais pas comment.
Vous m'entendez ou pas?
Oui. Ah ben, oui. Je vous vois en plus, alors c'est formidable.
Justement, ce que vous, la dernière chose que vous avez dite sur le fait que c'est pas parce que les Juifs ont rejeté Jésus que les disciples vont faire toutes les nations. Est-ce que c'est pas déjà ce que dit Isaïe quand il parle du salut de Dieu qui n'est pas seulement pour le peuple juif mais pour tous les peuples?
Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que le texte fondateur de la théologie de Matthieu, c'est le livre d'Isaïe. Donc c'est vraiment le, je dirais, la racine théologique que Matthieu a beaucoup travaillé. Je crois que Jésus aussi avait beaucoup travaillé Isaïe. C'est un des textes majeurs de sa théologie. Quand on s'interroge un peu sur Jésus, c'est très intéressant de savoir quelle était sa bibliothèque. Donc on sait très bien qu'il y avait les psaumes, hein, donc on sait que Jésus avait vraiment les psaumes dans l'esprit, et Matthieu sans doute aussi, et le livre d'Isaïe avait un rôle clé dans cet esprit-là. Et donc l'évangile de Matthieu est de fait une réécriture d'Isaïe qui permet de comprendre l'élection d'Israël et l'ouverture aux nations comme étant deux éléments constitutifs du mystère de l'Église. Et donc dès qu'on commence à séparer l'annonce de l'évangile aux nations païennes de Jérusalem et de l'attachement aux Juifs, on déséquilibre le message de l'Évangile.
Une question aussi, c'est au sujet du moment où Saint Matthieu parle de la Passion. Pourquoi est-ce que c'est aussi proche que la Passion chez Thomas ?
J'entends pas très bien, le son est pas très bon. Mais...
Pourquoi est-ce que le récit de la Passion selon Saint Matthieu est aussi proche de celui de Saint Marc ?
C'est une très bonne question au niveau de l'histoire rédactionnelle des évangiles. Les quatre évangiles ont été écrits à partir d'une prise de parole des apôtres dans la synagogue. Et donc, ils lisaient Isaïe, ou ils lisaient toujours un morceau de la Torah, on lisait une paracha de la Torah, on lisait un bout de prophète, et puis à la fin des lectures, on demandait à qui voulait de commenter l'écriture, et donc Saint Paul, Saint Pierre, etc., à la synagogue, ils disaient, eh bien voilà, ce que dit l'écriture, c'est précisément ce qui est arrivé à Jésus. Et donc, c'est ce qu'on appelle le noyau kérigmatique, le récit de la passion et de la résurrection du Christ. Donc, les apôtres disaient ça oralement dans les synagogues, et assez vite, ce noyau kérigmatique a été mis par écrit, et les premières pages de l'évangile qui ont été écrites, c'est le récit de la passion. Et donc, Matthieu a rajouté au récit de la Passion un itinéraire des disciples, Marc a rajouté au récit de la Passion un itinéraire des disciples, et Matthieu est venu consolider par une théologie de l'Église et une christologie du commencement ce récit de Saint Marc. Voilà, mais donc c'est assez marrant parce que ces deux, trois chapitres de la Passion sont le premier jet mis par écrit et puis ensuite amplifié. Et ils n'ont pas jugé opportun de trop changer le récit de la Passion. D'abord, c'était assez précis. Vous voyez, quand vous lisez le récit de la Passion, vous avez vraiment 24 heures de la vie d'un homme, quoi. C'est-à-dire que ça commence le jeudi soir et ça se finit grosso modo le vendredi soir. Donc, vous avez une nuit et une journée. Il eut un soir, il eut un matin. Et cette structure des 24 heures de la Passion du Christ, donc de l'institution de l'Eucharistie jusqu'à sa mise au tombeau, c'est 24 heures de sa vie, les disciples en avaient une mémoire quasi à l'heure près, hein, avec les paroles, les échanges, les procès. Alors, il n'y a pas une cohérence totale entre les quatre évangiles, mais il y a quand même quelque chose de très d'un socle assez commun. Et ensuite, on va rajouter des morceaux, et c'est ainsi que la Genèse des évangiles finit par les textes les plus tardivement écrits. C'est les premiers chapitres de Matthieu ou les premiers chapitres de Luc. Ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, c'est ceux qui ont été écrits, j'allais dire, bien plus tard, 30 ou 40 ans après le récit de la Passion, avec une élaboration christologique beaucoup plus développée. Et la problématique qui était au cœur de cette christologie, c'était de savoir si Jésus était Dieu dès le sein maternel ou s'il était devenu Dieu par son baptême ou par sa croix. Donc les évangélistes Luc et Matthieu ont voulu consolider la christologie de l'incarnation, donc le mystère du Verbe incarné. Et après, saint Jean, lui, va réécrire toute une autre tradition. Et...
Merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut imaginer que l'injonction du Christ à la fin de l'évangile de Matthieu, « Allez de toutes les nations, faites des disciples », c'est un écho de la Genèse « Croissez et multipliez-vous », sauf que cette fois-ci, il ne s'agit pas de naître de la chair, mais de l'esprit.
Oui, c'est en tout cas la clé initiale du chapitre 1, puisque le chapitre 28, le mystère de la résurrection, donc il faut lire l'unité du chapitre 28 pour bien comprendre aussi « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », fait écho au chapitre 1 à 3, dans lequel on a l'engendrement par l'Esprit-Saint et puis la présentation de Jésus dans l'Esprit au baptême. Donc pour bien comprendre le mandat missionnaire, on est obligé de lire le commencement de l'évangile de Matthieu, et le commencement de l'évangile de Matthieu est une réécriture de la Genèse, et donc par conséquent, dans le chapitre 28, vous avez la nouvelle Genèse. Et lorsque Jésus apparaît aux femmes, c'est comme une annonciation. Donc Matthieu ne raconte pas l'annonciation comme saint Luc, avec l'ange Gabriel qui vient annoncer que Marie attend un petit bébé. En revanche, il présente la résurrection de Jésus comme une annonciation. Ne craignez pas et allez apporter la nouvelle aux disciples. Et donc le mystère de la résurrection est analogue, et c'est le même mystère que l'engendrement du Verbe de Dieu dans le sein de la Vierge Marie, qui est la première disciple. Donc dès lors que vous croyez au Christ ressuscité, vous engendrez en vous, enfin vous portez en vous le Verbe de Dieu. Et ça correspond à cette idée de nouvelle création et de rassemblement de tous les peuples. J'allais dire pratiquement la promesse faite à Abraham. Hein. Toutes les nations te béniront, etc. Juste après la tour de Babel. Hein. Parce qu'il y avait une sorte de... la crise de Babel, c'est la dispersion des nations. Et la promesse faite à Abraham, c'est de rassembler les nations dans l'unité, ce que le prophète Isaïe va développer largement. Et donc l'envoi dans toutes les nations, avec la fin du monde annoncée, c'est la récapitulation du projet de Dieu originel, qui permet de repérer que la dignité juive n'est pas un privilège qui leur est destiné, on pourrait dire, à jamais, mais qui est le chemin par lequel toute personne humaine doit retrouver sa dignité. Et donc l'ouverture aux nations est précisément l'écho à ces chapitres 1 à 12 du livre de la Genèse.
Et mon père, dans le chapitre 1, pourquoi Matthieu précise qu'il y a 14 générations, 14 générations, 14 générations jusqu'au Christ ?
C'est une magnifique question. Hein. Donc, vous avez l'idée derrière, je vous donne mon interprétation. Évidemment, tout ce que je vous dis, c'est des interprétations relatives. Il y a beaucoup d'autres penseurs qui disent des choses bien plus belles, hein, mais je vous propose que la théologie catholique m'aide à comprendre. Donc, c'est un ensemble de... Donc, les versets 1 à 17 ne sont que des citations bibliques. Donc, vous avez des généalogies, de la Genèse, du livre de... et puis du livre des chroniques. Et donc Matthieu construit comme le chapitre 1 de la Genèse, où il y a 6 jours plus un 7e jour où on se repose, une compréhension de l'unité de l'histoire jusqu'à Jésus. Donc il veut nous dire dès sa première page que Jésus est la fin de l'histoire. Ça commence avec l'appel fait à Abraham et ça se termine avec l'incarnation de Jésus. Et le lien entre l'appel d'Abraham et l'incarnation de Jésus devient le lieu dans lequel va se rassembler toutes les nations. Donc l'histoire universelle des hommes trouve son sens dans l'aboutissement de l'appel d'Abraham dans l'incarnation du Verbe. Derrière, c'est 6 plus 6, enfin, c'est 6 fois 7, hein. Il y a tout un jeu. Alors, il y a le nom de David qui est impliqué, hein, parce que David, c'est Dalet, Vav, Dalet, donc c'est 14. Ça veut dire le bien-aimé. Et donc, on veut manifester à travers ce chiffre 14 le fait que l'histoire est une histoire de l'amour de Dieu pour son peuple qui tient sa parole. Abraham avait une promesse d'avoir une descendance qui ne mourrait jamais, qui ne finirait jamais. Eh bien, Jésus est cette descendance. Et à partir du moment où vous avez un homme qui est l'éternité présente dans l'histoire, d'abord, il ne se marie pas et il n'a pas d'enfant. Donc ça, c'est le principe de base. Donc les généalogies s'arrêtent. Et à l'intérieur de son humanité, vous entrez par la foi dans l'engendrement éternel du Fils de Dieu. Donc vous avez une vision, en tout cas c'est comme ça que je l'aperçois, de l'histoire du salut qui a sa plénitude pour un juif dès lors que la promesse faite à Abraham est tenue. La question est de savoir comment on va rentrer dans cette promesse, d'où la suite de l'évangile. Comment est-ce que Jésus, qui est la plénitude des temps, va pouvoir communiquer à l'humanité tout entière, son peuple et les nations, cette plénitude de l'histoire. Donc c'est une sorte de septenaire qui permet de voir le septenaire de Matthieu que je vous ai présenté comme le septième septenaire. Et donc ça reprend aussi tous les chiffres de la miséricorde. La Pentecôte, c'est 7 x 7, 49, c'est les années de grâce, etc. Donc je ne développe pas tous ces aspects-là, mais... pas si c'est clair, je m'embrouille un peu, mais en tout cas, le mot final de ces structures, c'est de montrer qu'il y a, pour être plus précis peut-être, il y a une croissance jusqu'au roi David, c'est la première grande étape de l'histoire du salut. Il y a une décadence jusqu'à l'exil en Babylone, c'est la deuxième grande étape du salut. Et puis un relèvement jusqu'à Jésus, et l'histoire s'arrête là. Il n'y aura pas de nouveau David après Jésus. C'est David qui est le roi par excellence. Et donc, voilà, je reviens juste à cette idée, c'est que saint Matthieu veut nous dire que l'histoire est achevée.
Mon père, j'aurais une question à propos de la parabole des mauvais vignerons en Matthieu 21.
Le passage le plus difficile, hein.
Voilà. Comment est-ce qu'on peut la comprendre si on veut éviter absolument une théologie de la substitution ?
Merci, oui. Alors, je vous renvoie parce que j'aurais du mal à tout vous expliquer, mais j'ai créé un article sur cette question-là qui vous permettra de retrouver un petit peu les arguments littéraires et le dossier que j'ai travaillé pour interpréter ce verset-là, donc qui est au chapitre 21, versets 43-44. Donc c'est pourquoi je vous le dis, il vous sera retiré le royaume de Dieu et il sera donné à une nation qui produira ses fruits et celui qui tombera sur cette pierre en sera brisé, celui qui, sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Il y a d'abord un débat un petit peu de critique textuelle, donc il faudrait voir, il y a des textes où les manuscrits sont un petit peu différents, mais c'est en tout cas un passage très intéressant sur la tension institutionnelle que j'ai voulu démontrer. Le peuple de Dieu, il est présent dans la vigne. Et donc, lorsque Jésus dit qu'elle sera donnée à d'autres vignerons, il n'entend pas parler du peuple d'Israël. Il parle de l'institution des vignerons qui est au service de la vigne du Seigneur, qui est appelée à lui donner des fruits. Donc, les vignerons ayant pris les serviteurs bâtir ceci, donc c'est la tension entre les prêtres, les rois et les prophètes. Donc prêtres et rois sont corrompus, les prophètes se lèvent comme Jean-Baptiste face à Hérode pour reconduire à la vie de l'Alliance, mais ils ne trouvent que des gens qui les persécutent. Donc Jésus dit clairement que l'institution qui fait tourner le temple est une imposture de criminel et que leur sera retiré le royaume, c'est-à-dire la charge de donner la vie de Dieu. Et elle sera donnée à une nation qui produira ses fruits. La question est de savoir quel est le sens de ce mot « nation ». Si on l'entend à partir de la parabole précédente comme l'élément institutionnel, on comprend que les baptisés deviennent la nouvelle institution, donc le sacerdoce baptismal, au service du peuple juif dans lequel trouvent leur place toutes les nations. Et donc, On n'a pas une théologie de la substitution, mais on a une théologie d'une nouvelle institution. Et c'est exactement ce que vous faites dès lors que vous allez célébrer la messe. Puisque le temple est en ruine, on ne peut plus verser le sang, mais en offrant le corps du Christ et en célébrant l'Eucharistie, vous offrez le sacrifice parfait qui accomplit le sacrifice du temple à Jérusalem. Donc vous êtes prêtre de l'Alliance et vous êtes censé, par le sacrifice que vous offrez à la messe le dimanche, d'intercéder pour les péchés du peuple tout entier, et en particulier des Juifs, mais aussi des nations. Et donc, vous devenez, au cœur du peuple d'Israël, une communauté, donc c'est ce que j'appellerais cette nation de publicains et de prostituées, choisie par le Christ pour être envoyé comme prêtre et roi de la nouvelle alliance. Non pas en substitution du peuple d'Israël, mais comme serviteur du peuple d'Israël, ce qu'on pourrait appeler les nouveaux vignerons. Donc là, ça suppose une lecture, à mon avis, assez fine du rapport entre les images de la parabole, parce que c'est précisément sur cette parabole que Margera fonde l'idée que les Juifs sont rejetés et qu'on va choisir des païens pour constituer le peuple fidèle à Dieu. Donc je vous propose une lecture alternative à cette question, et j'y tiens beaucoup, et c'est pour moi le cœur de ma foi catholique, et le cœur de la relation que nous avons comme chrétiens aux Juifs d'une part et aux païens d'autre part. Dans la logique de cette proposition, vous avez tout le cheminement entre le chapitre 8 avec le centurion et puis le chapitre 15 avec la cananéenne. Donc, c'est deux moments importants pour comprendre comment Jésus prépare ses disciples à devenir les serviteurs d'un peuple qui s'ouvre aux nations. Et mon petit article, il est dans la Nouvelle Revue Théologique en 2000, je ne sais plus combien, et ça s'appelle « Miséricorde d'Israël ». Voilà. Je vous l'indique quand même. En plus, il est en accès libre et il est gratuit grâce au confinement. Donc, il suffit d'aller sur le site de la NRT et je vous donne juste la référence exacte. C'est la NRT de 2016, c'est le numéro 138. Voilà, miséricorde et fidélité, le fait d'Israël dans l'évangile de Saint Matthieu, NRT 138, page 353-368. Enfin, en tapant ça sur Internet et NRT, vous retrouverez facilement, c'est une dizaine de pages, et ça reprend, mais je pense que je te l'ai encore mieux expliqué maintenant que dans mon article. Tout d'un coup, là, j'ai un élément qui m'est revenu sur le vigneron et qui est encore... Enfin, voilà, mais bon, je ne vais pas réécrire le truc, mais... Ça va, vous me suivez à peu près? C'est pas trop le bazar? Bon. Je ne sais pas quel est le timing, si vous avez prévu une fin.
Oui, bah, s'il n'y a pas d'autres
questions. En tout cas, je vous laisse vous reposer, hein, parce qu'il est tard quand même. Et puis, une heure et quart en visio comme ça, c'est déjà, c'est déjà bien lourd.
Merci infiniment, mon père. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va vous laisser aussi vous reposer. Oui, super.